Good afternoon. The Secretary General.
Mesdames et messieurs, bonjour. Le secrétaire général va faire quelques remarques liminaires et puis ensuite il sera à votre disposition pour quelques questions. Bonjour. Nous sommes à moins de 3 mois du sommet du Pays de Galles. Et sachez que les travaux avancent bien. Ce sommet intervient à un moment, où les défis de sécurité se multiplient au-delà de nos frontières, dans notre voisinage immédiat, à l'est ainsi qu'au sud. Par ailleurs, ces défis prennent différentes formes. Il s'agit donc d'une période charnière et nous avons d'importantes décisions à prendre. L'OTAN a adopté des mesures immédiates, fortes et déterminées. Aujourd'hui, nous avons mis en exergue l'importance de la défense collective. Par ailleurs, nous sommes convenus d'élaborer pour l'Alliance un solide plan d'action réactivité dans la perspective du sommet. Nous restons fermement déterminés à soutenir l'Ukraine. Nous avons d'ailleurs entériné un ensemble de mesures supplémentaires pour renforcer la capacité de l'Ukraine à se défendre. Il est notamment prévu de créer de nouveaux fonds d'affectation spéciale pour contribuer au renforcement des capacités de défense dans des domaines aussi importants que la logistique, le commandement et le contrôle, ou encore la cyberdéfense. Il s'agit également d'aider le personnel militaire à la retraite à se réadapter à la vie civile. L'Ukraine a une vision claire des choses s'agissant de la reconstruction de son secteur de la défense et de la sécurité. Par ailleurs, l'Ukraine a une stratégie claire pour le règlement de la crise. Le plan de paix du président M. Porochenko constitue une avancée majeure et nous le soutenons pleinement. Nous appelons la Russie à agir sur 4 plans. Premièrement, prendre de véritables mesures pour cesser de déstabiliser l'Ukraine. Deuxièmement, créer des conditions propres à la mise en œuvre du plan de paix. Troisièmement, arrêter de soutenir les groupes séparatistes armés. Et enfin, quatrièmement, interrompre le flux des armes et des combattants à travers sa frontière. Il s'agit là d'une réelle occasion pour calmer le jeu après l'agression de la Russie. La Russie doit faire marche arrière et ainsi respecter ses engagements internationaux. Aujourd'hui, nous avons également discuté de la coopération en matière de renforcement des capacités avec nos partenaires. L'OTAN est en effet la seule organisation capable de prodiguer des conseils sur toute la palette des questions de défense et de sécurité, qu'il s'agisse de l'entraînement des soldats en première ligne ou encore de la structure à donner au ministère de la Défense fonctionnant sous contrôle civil. Il s'agit là d'un investissement destiné non seulement à répondre aux défis actuels, mais aussi à faire face aux défis à venir. Il s'agit d'un investissement qui doit nous permettre de projeter la stabilité sans devoir toujours déployer des forces importantes. Aujourd'hui, nous avons décidé que l'Alliance apporterait cette aide de manière plus systématique. D'autre part, l'Alliance apportera cette aide de manière plus rapide. Nous allons réfléchir à la manière de créer un groupe d'experts civils et d'experts militaires qui seraient prêts à se rendre sur place le moment venu. Nous allons par ailleurs travailler à renforcer la coordination avec d'autres acteurs internationaux. Par ailleurs, nous avons décidé d'élaborer un ensemble de mesures destinées à développer encore les relations étroites que nous avons forgées avec les pays partenaires ces 20 dernières années, en menant ensemble des opérations difficiles. Ces pays partenaires sont à nos côtés, que ce soit en Afghanistan ou dans les Balkans. Ils prennent part à nos débats et ils nous aident dans l'élaboration des décisions. Nous devons donc continuer de travailler en association étroite avec ces partenaires, même si nous arrivons au terme de nos opérations de combat en Afghanistan. Ainsi, nous pourrons bâtir ensemble la stabilité dans un monde imprévisible. Mais quand on parle de partenariat, il ne s'agit pas que de coopération. C'est aussi une affaire de valeur et de confiance. Depuis plus de 20 ans, nous essayons de construire un tel partenariat avec la Russie. Mais la Russie n'a pas respecté les règles du jeu. Ce faisant, la Russie a entamé la confiance. La Russie présente publiquement l'OTAN comme étant une menace. Dans les faits, ce sont les agissements illégaux de la Russie en Ukraine qui font peser une menace sur l'ordre international. En avril, nous avons indiqué très clairement que nous ne pouvions pas continuer comme si de rien n'était. Ainsi, nous avons suspendu la coopération pratique avec la Russie tout en maintenant ouvertes les voies du dialogue diplomatique. Aujourd'hui, nous ne constatons aucun changement s'agissant du comportement de la Russie. Dans ces conditions, nous n'avons pas d'autre option que de confirmer la suspension de la coopération pratique, tant civile que militaire. Il n'y aura pas de retour à la normale tant que la Russie ne se conformera pas à ses obligations internationales. Sur ce, je suis disposé à présent à répondre à vos questions. Nous commençons par Georgia Public Broadcaster. Monsieur le secrétaire général, ce matin, vous avez indiqué que l'OTAN allait développer un ensemble complet de mesures pour la Géorgie. Nous voudrions savoir plus sur cet ensemble de mesures. Quels sont les éléments qui seront retenus? Deuxième remarque ou question, est-ce qu'il s'agira d'exercices conjoints? Est-ce qu'il s'agira de renforcer le bureau OTAN en Géorgie ou y a-t-il d'autres éléments qui figureront dans ce paquet? D'autre part, nous voudrions savoir si cela va être suffisant pour préparer le pays à une adhésion à venir. D'autre part, est-ce que cela veut dire qu'il n'y a pas encore de consensus sur un plan d'action pour l'adhésion? Je vous remercie. Au Pays de Galles, lors du sommet, on ne va pas parler de plan d'action d'adhésion. Ce dont il sera question sera le fait d'apporter un plus grand soutien à la Géorgie pour rapprocher la Géorgie de l'OTAN. Il s'agira d'un ensemble constitué d'éléments de fond et nous allons travailler en étroite collaboration avec la Géorgie d'ici le sommet. Donc je suis au regret de devoir vous dire que je ne suis pas encore en mesure de vous préciser quels sont les éléments concrets de cet ensemble pour l'instant. C'est quelque chose qui va faire l'objet d'un travail d'ici le sommet. Permettez-moi de préciser et rappeler que la décision que nous avons prise au sommet de Bucarest en 2008 continue d'être en vigueur. Vous vous souviendrez qu'à Bucarest, en 2008, on avait décidé que la Géorgie deviendrait membre de l'OTAN. Pour peu, bien entendu, que la Géorgie satisfasse les conditions nécessaires. S'agissant du paquet que nous allons constitué dans l'ensemble, dans l'optique du sommet, c'est quelque chose qui va rapprocher la Géorgie de l'OTAN. Alors, il y a une autre question sur la Géorgie. Monsieur le secrétaire général, vous avez indiqué que la Russie avait enfreint les règles du jeu. Alors, quels sont les liens avec ces différentes questions? On sait qu'au sommet de Bucarest, il n'y a pas eu de map pour la Géorgie. Mais par la suite, il y a eu la guerre en Géorgie. Alors, quelle devrait être la réaction de l'OTAN par rapport à la poursuite de ses activités par la Russie? Ouais, je vous remercie, Monsieur le Secrétaire général. Oui, effectivement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la Russie a souscrit au principe selon lequel chaque pays a le droit de déterminer soi-même quelle va être sa politique de sécurité et a le droit de faire ses propres choix en matière d'alliance. Alors, bien entendu, la Russie doit honorer cet engagement. Cet engagement fait partie de la charte de l'OSCE de 1999. Cela ne vaut pas que pour la Russie, c'est l'ensemble des pays de l'OSCE qui ont souscrit à ce principe. Donc évidemment, il faut que tout le monde s'en tienne au respect des choix souverains de la Géorgie, des décisions souveraines de la Géorgie concernant l'identité des acteurs avec lesquels la Géorgie veut coopérer.
Télévision du Monténégro, vous avez dit ce matin que, en ce qui concerne notre pays, l'OTAN allait lancer des discussions intensives, donc avec le Monténégro. Alors, qu'est-ce que cela veut dire de façon concrète? À quoi pouvons-nous nous attendre dans un avenir proche pour notre pays? Cette décision signifie que nous allons entrer dans ce que j'appellerais une nouvelle phase de nos relations. Nous allons ouvrir ce que nous appelons des relations, des discussions ciblées, renforcées avec le Monténégro. Et dans la pratique, cela signifie que nous allons également renforcer notre assistance au Monténégro pour ce qui est de la mise en œuvre des réformes nécessaires. Dans le cadre du plan d'action pour l'adhésion actuelle, nous avons recensé un certain nombre de domaines où le Monténégro a besoin d'aller plus loin pour pouvoir se conformer aux critères. Et nous allons donc arriver à un stade où nous allons nous concentrer plus directement sur certains des sujets les plus importants. Et au plus tard, à la fin de 2015, les ministres des Affaires étrangères examineront les progrès et prendront une décision pour voir si le moment est venu d'inviter le Monténégro à devenir membre de l'Alliance. Cette décision reflète le fait que le Monténégro a déjà beaucoup avancé dans la voie de la conformité aux critères. Et maintenant, nous souhaitons aider le Monténégro à arriver à faire cet effort supplémentaire. Et l'un des domaines sur lesquels nous allons particulièrement nous concentrer, c'est la réforme du secteur de sécurité. Je me suis rendue récemment à Podgorica et j'ai pu en discuter de façon approfondie avec les autorités politiques du Monténégro. Je pense que ces autorités ont pleinement conscience de ce qui est nécessaire. Donc la décision est tout à fait positive. Cette décision qui sera prise de la même façon qu'on peut le dire pour la Géorgie. Les décisions que nous sommes en train de préparer en vue du sommet seront des décisions très positives et très importantes concernant la politique de la porte ouverte de l'OTAN. La BBC. Est-ce que cela veut dire que nous pouvons nous attendre à avoir une invitation dès que nous serons prêts? Ça n'est pas obligé d'être au moment d'un sommet, dès que toutes les obligations auront été remplies, les ministres pourront en décider? C'est effectivement important de souligner le fait que ces décisions ne sont pas forcément prises uniquement à l'occasion d'un sommet, même si par le passé, très souvent, ces invitations ont été lancées à des pays au moment d'un sommet. Mais ça n'est pas une condition obligatoire d'avoir un sommet. Les ministres des Affaires étrangères, lors d'une réunion, par exemple, pourraient prendre la décision d'inviter un pays candidat à devenir membre de l'Alliance. Mais l'invitation, d'ailleurs, n'est pas la toute dernière étape. L'invitation est une invitation à entamer les derniers pourparlers, finaliser les derniers documents. Mais vous avez raison de dire que ça n'est pas forcément lors d'un sommet. Les ministres sont également compétents pour une telle décision. Néanmoins, il est prématuré de dire si ce moment sera venu d'ici à la fin 2015. Mais à ce moment-là, les ministres des Affaires étrangères feront le point, donc au plus tard à la fin de 2015. La BBC. Monsieur le secrétaire général, vous avez répété ce matin, comme par le passé, que l'OTAN souhaite garder la porte ouverte, qu'aucun pays tiers n'a un droit de veto quant à l'adhésion de nouveaux pays à l'Alliance. Mais il y a un certain nombre de pays avec lesquels l'OTAN renforce ses liens qui ont des conflits territoriaux non résolus et qui peuvent mener à des conflits directs avec la Russie. Alors, est-ce que vous imaginez une situation dans laquelle un pays aurait des différends territoriaux avec la Russie non résolus et pourrait néanmoins devenir membre de l'Alliance ? Parce que si ce n'est pas le cas, alors cela revient effectivement à donner un droit de veto à la Russie. Et c'est précisément pour cette raison que nous souhaitons dire très précisément quels sont les domaines sur lesquels nous basons notre décision d'adhésion, mais en sachant néanmoins qu'au bout du compte, c'est une évaluation politique globale et qui mènera à la décision d'inviter un pays à adhérer ou non à l'Alliance. Et là, je voudrais vous renvoyer à l'article 10 du traité de l'OTAN et qui souligne deux points très importants et qu'il faut avoir à l'esprit, qui s'applique pour inviter un pays à devenir membre. L'article 10 stipule que nous pouvons inviter des pays européens à devenir membres de l'Alliance si ces pays sont en mesure de contribuer à la sécurité euro-atlantique et à faire avancer les principes sur lesquels nos sociétés sont fondées. Ce sont les deux critères et ce sont les critères qui seront à la base de toute décision qui sera prise à l'OTAN sur un élargissement.
Question, NPR.
Une dernière question, la NPR. Oui, bonjour, Thierry Schulz. Monsieur le secrétaire général, une fois de plus, un de vos alliés, la Turquie, à faire face à plus d'instabilité et des craintes par rapport à des combats qui ont lieu à la frontière de l'OTAN et qui pourraient se rapprocher. Alors, je crois comprendre que la question de l'Irak a été soulevée lors de vos discussions. L'OTAN envisage-t-elle d'envoyer des formateurs, des instructeurs ? Quelles sont vos préoccupations par rapport au fait que donc une autre frontière turque se trouve à proximité de troubles aussi importants ? Puis, évidemment, nous sommes très vivement préoccupés par la situation en Irak. Mais le fait est que nous sommes également vivement préoccupés par la situation dans la région, dans son ensemble. Ces questions-là ont également été évoquées lors de nos échanges. Et bien entendu, il y a nos amis turcs qui ont fait état de leurs préoccupations. Ils ont des raisons tout à fait légitimes quant à ces inquiétudes, puisque ces situations se développent à proximité immédiate de leurs frontières. Ce que je puis vous certifier, c'est que les alliés de l'OTAN sont solidaires et unis et nous souhaitons mettre en place des protections défensives pour l'ensemble de nos alliés, y compris la Turquie. Comme vous le savez, c'est la raison pour laquelle nous avons procédé à un déploiement de missiles Patriot en Turquie. C'était pour défendre la population et la société turque par rapport à d'éventuelles attaques de missiles. Et nous n'hésiterons absolument pas à prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que de telles mesures défensives puissent être réalisées pour la Turquie. Quant au point que vous venez de soulever, nous n'en avons pas parlé. Comme vous le savez, il y avait une mission de formation de l'OTAN en Irak. Il y a quelques années de cela, il a fallu y mettre un terme lorsque les autorités irakiennes ont décidé de ne pas prolonger les dispositions juridiques et sécuritaires nécessaires. C'est la raison pour laquelle il a fallu que l'on mette un terme à nos activités de formation en Irak. Et si je puis me permettre, je rajouterai qu'un enseignement que l'on a pu tirer de cette expérience-là, c'est l'importance qu'il y a à assurer la formation et l'entraînement des forces de sécurité locales. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous comptons bien déployer une mission de formation en Afghanistan. Cela sera en vigueur à partir du 1er janvier 2015, mais nous aurons la possibilité de revenir sur ce dossier plus tard dans la journée. Oui, effectivement, désolé, nous n'avons pas le temps pour d'autres questions, mais nous nous revoyons tout à l'heure. Merci bien.